Anouk Grimbert, on commence par la vie.
La vie est belle. Déjà aussi belle que la vie. La vie est très belle. Nous la prenons, la vie. La vie est très belle. Comme la vie est belle. Elle commence belle, la vie. Si belle. Dure, ça l'est aussi. C'est Ernst Herbeck, qui est un auteur brut, qui a eu une vie un peu compliquée, déjà du seul fait d'avoir un bec de lièvre, qui faisait qu'il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas du coup à aller à l'école. Alors on en a fait un ouvrier, et puis ensuite on en a fait un soldat, il est parti à la guerre, et il est revenu un peu cassé, et il s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique, et dans cet hôpital, il n'a pas cessé d'écrire des poèmes comme ça, qui sont presque des cantates.
Il est 20h sur France Culture et il faut élargir la langue. En exergue de son recueil de textes, Anouk Grimbert cite Mayakovsky « La barque de l'amour s'est brisée contre la vie courante. La vie courante, c'est celle qui met en sourdine et qui fait que l'on n'entend pas ou que l'on ne voit plus. Ça court et ça ne s'arrête pas. Certains ont été à l'arrêt forcé, des hommes et des femmes dans des hôpitaux psychiatriques se sont mis à écrire. Des choses inouïes n'ont pas beaucoup été lues. Anouk Grimbert a réuni leurs textes, qu'on appelle des écrits bruts, dans un livre « Et pourquoi moi je dois parler comme toi ?» et dans une envie de spectacle, pour qu'il soit entendu, puisque ça parle différemment, ça parle au niveau du poème. C'est le contraire de s'en tenir docilement au réel, comme elle dit. C'est à l'intérieur de la langue créer des possibles. Ce sont des lettres, des poèmes et quelques bribes de biographie accompagnées par les petites notes, ce sont ces mots, de Nicolas Repac. Emmanuelle Lafont, elle, sur scène, n'est pas traversée par des écrits bruts, mais des paroles brutes. Des types de paroles qu'on n'entendait pas au théâtre, sans hiérarchie. Un commentaire sportif, Gilles Deleuze, un message d'un conseiller bancaire, l'extrait d'une sitcom ou une plaidoirie. Des voix réunies par l'Encyclopédie de la parole, qui, depuis plus de 10 ans, collecte la parole partout où elle existe. Une centaine de voix parlent à travers le corps d'Emmanuelle Lafont dans Parlement, leur spectacle manifeste. Ce sont aussi des moments de création verbale. Ce soir, il y a l'obsession des façons de parler, l'obsession de leur faire une place à toutes et d'en faire sur scène une matière poétique. Nous sommes avec Anouk Grimbert. Elle réunit dans un livre des écrits bruts et non bruts. Ça s'appelle « Et pourquoi moi je dois parler comme toi ?» Ça vient de sortir aux éditions Le Passeur. Et c'est aussi un spectacle avec Nicolas Repac à la musique qui devait avoir lieu au Théâtre de la Colline au printemps dernier, qui a déjà été créé, joué quelques fois. Tous les deux sont en studio pour nous en offrir un extrait. Et puis à noter, à écouter, l'EP de Nicolas Repac s'appelle « Rhapsody » et il est sorti le 16 octobre. Nous sommes aussi avec la comédienne Emmanuelle Lafont, qui fait partie de l'Encyclopédie de la Parole. Le Festival d'automne à Paris leur consacre un portrait cet automne. 8 spectacles étaient prévus au cours de l'automne, dont Parlement avec Emmanuelle Lafont, qui a été repris au Théâtre de la Bastille, près de 11 ans après sa création. C'est Tous en scène sur France Culture. On commence comme chaque semaine par prendre des nouvelles du théâtre dans le monde. Et ce soir, nous sommes à Lima, au Pérou.
Hola, mi nombre es Lucía Carabedo. Soy actriz y productora peruana. The venues here are closed since March, and it has been a very hard blow for the entire.
Les théâtres ici sont fermés depuis mars et ça a été très dur pour l'industrie théâtrale. Faire du théâtre au Pérou n'a jamais été facile sans soutien ni subvention publique. Le théâtre ici n'est possible que par la volonté et le désir des artistes qui, dans ce contexte difficile, ont cherché des façons de créer.
began to look for ways to continue creating and they found in the virtuality.
Et ils ont trouvé avec Internet et avec l'espace virtuel une façon de garder le théâtre en vie. Dès le mois de mai, des compagnies ont produit des pièces en ligne, mais ça a aussi créé une résistance de la part de ceux qui considéraient qu'alors ce n'était plus du théâtre. Donc il y a eu un grand débat.
A big discussion about whether this was theater or not theater, but I believe that in the theater we are used to work with.
Mais au théâtre, on a l'habitude de travailler avec les outils qu'on a, avec les obstacles. Donc dans ce sens-là, ce qu'on tente de faire, ça a du sens et ça nous permet de rester connectés à nos désirs.
Allowing us to stay alive in creation and connected with our desire.
Mais c'est vrai que le théâtre ici au Pérou n'était pas très développé, donc on a beaucoup de chemin à faire. Et la réouverture des théâtres, c'est la toute dernière phase prévue à l'intérieur de la réouverture du pays, qui commencera à la fin de l'année. Mais le gouvernement n'a pas encore fixé les règles sanitaires pour permettre l'ouverture à 50% de capacité des théâtres. Et donc les artistes ont lancé une grande campagne sur les réseaux sociaux pour qu'ils y travaillent et que les théâtres puissent ouvrir l'an prochain.
So we can return to our venues next year. Thank you very, very much.
Anouk Grimbert, Emmanuel Lafont, Nicolas Repas, qui a pas mal d'incertitudes en ce moment, évidemment, puisque les choses ouvrent, puis referment, et puis il faut s'adapter. On entendait cette productrice au Pérou qui ne sait pas quand les théâtres vont réouvrir à Lima. Comment on fait pour continuer d'avancer, de créer, de penser, de réfléchir et de se connecter à son désir, comme elle dit, dans une telle incertitude, Anouk Grimbert?
Imaginez qu'un violon puisse parler. Quand un violon est dans un étui, c'est quoi son désir? Mon désir de violon, il est d'être joué, et plus personne joue de moi. Et puis il y a aussi que on est des drôles d'animaux. On se développe au contact de texte, et quand on n'est plus au contact de texte ou au contact d'œuvre ou au contact d'alliés, quand on est isolé, la chose compliquée mais en même temps intéressante, c'est comment mon violon il peut ne pas mourir sans être joué. Alors bon, moi, je sais pas. Il faut rester de bonne humeur, il faut rester curieux, il faut lire des choses, il faut que l'obscurité vienne pas à l'intérieur. Mais on est isolé, ouais.
Emmanuel Lafont.
Je dirais qu'il y a aussi quelque chose qui me semble important, c'est que il y a nous et puis il y a aussi vous, enfin, c'est-à-dire les personnes avec lesquels on partage ce qu'on écrit, ce qu'on fabrique, ce qu'on joue, et que c'est, enfin c'est important aussi de savoir qu'il est non seulement qu'on a le droit, mais qu'il est vraiment nécessaire de bouquiner, d'aller écouter les musiciens qu'on écoute en boucle chez soi, d'aller les voir en concert, de créer, se permettre de faire des choses qui alimentent le travail autant que le travail lui-même, parce qu'on entend beaucoup qu'on va travailler encore plus. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je trouve ça assez difficile de pas entendre le fait que pour travailler quelque chose de très, ça peut être aussi très heureux, quoi, et très alimenté de tout ce que ce qu'on apporte nous dans les théâtres, dans les cinémas, dans les musées.
Je voudrais donner, à partir de phrases de Jean Dubuffet, une définition rapide et peut-être provisoire de l'art brut. L'art brut désigne des productions de toute espèce. Alors ça, c'est tout à fait important, qu'il ne s'agit pas seulement de peinture, on dépasse le cadre du musée. Des productions de toute espèce, dessins, peintures, broderies, figures modelées ou sculptées, etc., écrits aussi, présentant un caractère spontané et fortement inventif, aussi peu que possible, écrit Jean Dubuffet, débitrice de l'art coutumier ou des poncifs culturels, et ayant pour auteur des personnes obscures, étrangères au milieu artistique professionnel. Ce que dit aussi Jean Dubuffet, c'est très important, c'est que l'art brut est de l'art où se manifeste la seule fonction de l'invention, et non celle qu'on... Alors la seule, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons une grande fonction de l'invention, et non celle constante dans l'art culturel du caméléon et du singe. Au fond, l'art brut, c'est l'art qui n'est pas conformiste, qui n'est pas du côté des habitudes, du côté des modes. Il ne faut pas identifier l'art brut et l'art des malades mentaux. D'abord, il y a un grand nombre... peut-être pas la majorité, mais il y a un grand nombre d'artistes d'art brut qui n'ont jamais été enfermés dans les hôpitaux. Et d'autre part, tous les malades mentaux ne sont pas du côté ni de l'art brut, ni de l'art en général. Comme le disait aussi Jean Dubuffet, il n'y a pas d'art des malades mentaux, pas plus que d'art des malades du genou. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de spécificité de l'art des malades mentaux et que la création, partout, et l'invention partout sont rares.
Anouk Grimbert, il y a une très belle préface de Jean-Pierre Siméon à ce recueil de textes. Et je le cite, « Abandonner tout préjugé, oublier, mais oublier vraiment les injonctions de l'ordinaire bon sens et de la raison satisfaite. » Pour entrer dans ces textes bruts, c'est quoi les préjugés qu'il faut abandonner selon vous? Ou qu'est-ce qu'il faut abandonner et comment il faut arriver pour lire ces textes?
Faut arriver pas raciste. Il y a un racisme très très ancien et très colossal des bien portants envers les moins bien portants, où on a toujours il y a des excommuniés de la société, et là ce livre là les accueille, c'est un recueil d'accueil vraiment depuis toujours on n'aime pas les fous et on leur retire leur nom, leur identité, leur histoire, et en général on leur demande de se taire. Pourquoi on leur demande de se taire? Parce qu'ils parlent pas la langue de tout le monde, ils parlent pas la langue du papa et maman du censeur. Et c'est aussi parce qu'ils parlent pas la langue de tout le monde qu'on en a fait des fous et qu'on les a enfermés et qu'on les a bâillonnés. Après, comment? C'est vrai que ces textes, ils sont, ils peuvent être pour certains un peu ébouriffants. Par exemple, ces gens qui étaient enfermés, ils avaient des tout petits bouts de papier pour écrire. Donc, ils n'avaient pas la place de faire des espaces entre les mots, ce qui fait une écriture parfois haletée parce que il y a plus de respiration. Ou bien, il y en a d'autres. Il y a d'autres auteurs qui, pour parler au plus près de soi, puisqu'ils ont été défaits d'eux-mêmes, ils inventent des mots qui ne font pas partie du langage courant, mais qui, quand on les lit, on se dit « Mais bien sûr que ça, ce mot-là, il dit la chose de la façon la plus intérieure, la plus vraie, et pas dénuée d'humour. » Mais bon, il faut se défaire des préjugés. Nous, on nous a appris à pas aimer les fautes d'orthographe, par exemple. Ben, il y a certains de ces auteurs qui faisaient des fautes. Certains, c'est juste qu'ils n'avaient pas été à l'école. D'autres, c'est qu'ils voulaient bousculer les règles, toutes ces règles, qu'elles soient grammaticales, familiales, religieuses. Tous ces auteurs étaient des gens qui étaient rétif à la société et aux règles. Et ils ont réinventé des règles grammaticales, d'orthographe, qui sont si jouissives. Mais il faut arrêter d'être professeur ou bon élève pour entrer dans ces textes qui tanguent un peu, quoi.
Et on rate quoi, Anouk Grimbert, quand on s'en tient docilement au réel, justement, quand on s'en tient à être un homme ou une femme conforme?
Ce qu'on rate, c'est les paysages qu'on peut voir tout près de nos falaises intérieures. C'est de traverser c'est d'être dans l'obscurité, et parce qu'on est dans l'obscurité, on invente la lumière. On rate une forme de solitude heureuse. On rate un contact avec soi-même. On rate parfois des contacts avec les esprits. On rate la confiance en soi. On rate la liberté au risque d'être seul. Mais tout ça est... Mais ce qu'on rate, tout ça qu'on rate, quand on a trop peur de vivre, en fait, on le paye aussi, hein, on le paye. Eux, ils l'ont payé cher, ils ont été enfermés parfois 40 ans pour rien, ils ne savaient pas pourquoi. Il y en a un, par exemple, il faisait des poteries et puis il les cassait. Mais Giacometti aussi faisait ça. Et moi, j'ai pu trouver quelqu'un de sa famille. Et c'était son vieil oncle. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il avait, Samuel? Qu'est-ce qu'il avait de si bizarre? Pourquoi il s'est fait enfermer? Et l'oncle disait, je sais pas, il était bizarre. Mais comment ça, bizarre? Il restait souvent dans sa chambre enfermé. Et on se dit, mais alors c'est vraiment un hasard que je ne sois pas enfermée, moi. C'est un hasard de naissance, de milieu, parce que il n'est pas du tout question de faire l'apologie de la folie, du tout, j'aime pas ça, la folie. Mais par contre, il y a une chose qui est indéniable, c'est que quand on prend toutes les productions artistiques, je parle des productions sincères, des productions... sincère, c'est pas un mot ringard, quoi. Il y a toujours la folie qui se mêle, il y a toujours une forme de délire. Alors on essaye de transposer ce délire pour qu'il soit pas mortifère, ni pour soi, ni pour ceux qui l'écoutent, mais quand vous disiez tout à l'heure que les gens ont besoin des artistes, ils ont aussi besoin de leur délire pour épancher leur propre gouffre, quoi. En fait, on éclaire leur gouffre. Et ces gens, ces artistes bruts qu'on a vraiment fait tomber du monde, mis hors du monde, qu'on a abandonné, en fait, ils nous disent des choses de nous. C'est pas seulement qu'on entend des étrangers parler une langue étrangère, c'est que c'est comme s'ils nous reconnectaient avec quelque chose qu'on ferme le robinet, parce que si on ouvrait ce robinet, on aurait juste peur pour nos équilibres, quoi. Alors qu'en fait, quand on ouvre les robinets, ça va bien. C'est pas si dangereux, quoi. Et puis c'est festif, ils sont si créatifs, ces gens.
Il y a justement cette joie et ce plaisir de la transgression et de l'invention par rapport à la langue conforme, ordinaire, habituelle.
Mais la langue, c'est que le haut de l'iceberg. C'est que on parle pas différemment parce que on cherche à parler différemment. Ça, c'est Pérec qui fait ça. Eux, quand ils parlaient différemment, c'était autrement plus sérieux. Ils parlaient différemment dans un esprit de survivance. Aucun de ces auteurs ne pensait être édité un jour. Aucun d'eux... Ils voulaient juste écrire des lettres à des gens pour qu'on les libère. C'était ça leur seule ambition. Enfin, non, j'exagère, non. Il y en avait, ils écrivaient pour que meure pas leur âme. Mais je crois qu'à l'origine, ça devrait toujours être ça, l'art. Il y a un truc aussi qui nous disent, à nous qui sommes des artistes professionnels, où on passe beaucoup d'heures par semaine à se dire « Mon Dieu, est-ce que j'existe? Est-ce que je vais faire partie de tel machin? Et est-ce que je suis dans tel réseau ?» Et, bon. Et en fait, c'est des telles pollutions pour ces... C'est pour... Juste, tout à l'heure, je parlais du violon. Un violon, il est... S'il veut trop être dans le monde, il joue la musique du monde. Et jouer la musique du monde, c'est pas si beau. Peut-être que, bizarrement, parce que ces gens étaient enfermés, ce qui n'est pas à désirer, mais parce qu'ils étaient enfermés, ils étaient libérés de quelque chose dont nous, on n'est pas libres.
Vous parliez tout à l'heure de Samuel, ouais, qui faisait des poteries et puis qui les cassait. C'est Samuel Daber qui, lui, écrit avec une invention incroyable, justement, ces mots dont vous parliez tout à l'heure, qui n'existent pas, mais qu'on comprend immédiatement,
par exemple,
intimement.
Par exemple, je ne veux pas qu'on me rature de la circulatute.
Ou je veux pas qu'on m'orpheline.
Je veux pas qu'on m'orpheline. Bah ouais, quel auteur célébré, libre, qui peut circuler librement, qui peut monter dans une voiture et tout ça, quel auteur ne rêverait pas d'avoir cette liberté de se dire... en fait, ils avaient le droit... Et en fait, on a le droit. C'est juste qu'on ne se l'accorde pas parce qu'on est trop éduqué. Et leur chance à eux, c'est d'avoir été rétifs à l'éducation. Et alors, leur chance, c'est facile pour moi de dire ça, je suis dans mon salon. C'était pas drôle, hein. En plus, c'était des conditions super violentes d'enfermement proche de la prison. Mais, du point de vue artistique, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un rapport entre l'oppression et la liberté.
Il y a des phrases de Samuel Daber qui sont incroyables. « Même si je suis sans espérance de salut, même si mes places officielles sont occupées, je mande, demande, commande de rester futur existant. »
C'est si beau, quoi.
C'est vrai que c'est vraiment... Au tout début, vous parlez... enfin, on pense à la folie et puis très vite à la poésie. On est entièrement dans le poème, dans ses écrits. Et dans donc, ce recueil et le spectacle qui s'appelle « Et pourquoi moi, je dois parler comme toi ?» Il y a ses écrits et puis à chaque fois, il y a évidemment leur nom et une petite idée de leur biographie. Et c'est important aussi de savoir deux, trois choses sur eux, d'où ils viennent, peut-être ce que faisait leur père ou leur mère, ou une chose qu'ils ont pensé, où est-ce qu'ils voulaient aller. Et Nicolas Repac, vous accompagnez ces textes, vous dites par des petites notes, des toutes petites notes. Pourquoi ?
Parce que c'est pas un piano à queue qui me semble être l'instrument adéquat pour accompagner ces gens-là. Dès le départ, quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé ce spectacle, on a développé l'idée d'être au plus simple, au plus près d'eux, dans l'intimité. Et du coup, j'utilise souvent dans le spectacle des instruments qui sont tous très limités. J'en ai porté un pour aujourd'hui, une petite sansa, une petite sansula, qui n'a que quelques notes. Du coup, j'ai toujours fait le rapport entre ces instruments de musique et puis les limites de leur existence, leur confinement perpétuel, leur solitude. Je trouve que c'est un moyen pour être à leur chevet, en fait, près d'eux, que ça ait du sens, il n'y a pas de recherche de virtuosité, il n'y a rien de démonstratif, c'est quelques petites notes, des petites notes de leur âme qui doivent circuler librement et voilà.
Et si je peux ajouter quelque chose, ça nous importait beaucoup pour Nicolas et moi quand on a créé ça, qu'on ne fasse pas les fous. La folie, ça se mime pas. C'est une contrée et Et en plus, c'était important aussi pour nous de porter la part lumineuse de ces textes, plutôt que, pardon, je me permets de te contredire, d'aller au chevet. Moi, j'ai pas l'impression d'être avec des fragiles ou des mourants. C'est plus des billes de lumière, quoi. Et chaque fois qu'on est plein de poncifs, même nous, évidemment. Et quand parfois on répétait et puis on faisait bien. Et c'était faux. C'est pas ça qu'il fallait faire. Et ça m'est arrivé de voir des spectacles inspirés de textes bruts. Et j'étais vraiment mécontente et j'avais de la peine pour ces auteurs. Parce que les artistes sur scène faisaient les fous. Et c'était méchant.
Emmanuel Lafon, vous qui êtes experte plutôt de l'oralité, de la parole, avec l'Encyclopédie de la parole, mais qui vous intéressez à toutes les formes d'écriture, vous disiez en arrivant en studio, tiens, ça m'intéresse parce que je suis fascinée aussi par les écrits bruts. Vous les connaissiez, ces textes bruts? Vous en connaissiez quelques-uns?
Oui, c'est vraiment marrant que vous ayez eu l'idée de nos présences conjointes, ou alors sont les magie des calendriers aussi, peut-être, mais ça m'a beaucoup éclairé, moi, sur le rapport que j'avais avec certains auteurs, quoi. J'ai compris à quel point des auteurs extrêmement sophistiqués comme Beckett, des auteurs aussi sophistiqués que, bon, après les poètes, je sais pas, on a Tarkos aussi, qui est un grand poète de l'oralité, par exemple, mais des gens comme ça, à quel point ils ont eu, je sais pas, quelle folie ils ont eu, quelle non peur du jugement, quelle inspiration, quelle ressource en eux-mêmes pour se détacher d'une manière, donc ce sont des gens très éduqués, tout ça, hein. Joyce, d'une manière donc très Faulkner, vous voyez, très ordonnée d'écrire pour arriver. Je lisais encore Duras il y a peu de temps, enfin, c'est absolument incroyable. Elle met des espèces d'infinitifs avant le verbe, en plus elle fait ça souvent, ça devient un style. Mais ça devient sa manière d'être, de parler, puis on la lit, on lit Beckett, on ne peut pas se tromper, c'est eux, quoi. Donc c'est... Et ça, j'ai l'impression, moi, ça me donne l'impression de gens qui ont eu l'humilité, l'inventivité de s'écouter eux-mêmes et de se dire, tiens, comment moi, j'écrirais.
Mais d'ailleurs, les auteurs dont vous parlez, il y en a quelques-uns,
ouais,
dans le recueil d'Anouk Grimbert, puisqu'il y a un compagnonnage, comme vous dites, entre des écrits bruts et non bruts. Et on peut retrouver Tzara, Paul Éluard, Emily Dickinson. Donc il y a quelques textes comme ça.
Parce que mon rêve à moi était que ces textes bruts qui sont connus de très 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 peu de gens et quelques psychiatres, en gros. Mon rêve à moi, c'était que cette littérature entre dans le domaine de la littérature et sorte du ghetto des écrits asilaires. Et bon, et ils étaient en très bonne compagnie avec quelques auteurs. Bizarrement, quand je travaillais sur cette anthologie, j'ai relu beaucoup de poésie pour voir qui allait être les copains des artistes bruts. Et ben, c'est marrant. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui entraient là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup qui ne faisaient pas de blabla. Lamartine, il peut aller se coucher, quoi. Par exemple, Emily Dickinson, quand on prend son exemple, c'est une petite bonne femme qui est restée toute sa vie enfermée dans sa chambre et en allant dans le jardin de son père. Et elle a connu la vie entière, l'existence entière, dans tout son rayonnement, depuis ce jardin et depuis sa chambre. S'il n'y avait pas eu l'amour de ce père, bien sûr qu'elle aurait été enfermée. Et ça n'aurait rien changé au fait qu'elle aurait vu la vie entière. Mais en effet, Joyce, Beckett ou... par exemple, il y a des textes de Tzara, Tristan Tzara. Les surréalistes, ils étaient complètement fanatiques des textes bruts qu'ils ont découverts au moment de la guerre, où ils sont allés se réfugier dans l'hôpital de Saint-Alban, et ils étaient complètement impressionnés et presque jaloux de leur liberté à eux, et ils ont essayé de les imiter, et ils s'en sont inspirés sans jamais citer les sources. Et là, dans je suis tombée par miracle, par hasard, sur un texte de Tristan Tzara, très très fantastique, et que j'ai mis juste après une femme qui s'appelle Lotte Morin-Jégo-Est, et qui a écrit des textes extraordinaires. Et Tzara, les surréalistes, ils étaient quand même pas gênés parce que ils piquaient les lettres, quoi. Il y avait un trafic d'art. Non seulement Tzara, il était en possession de ses lettres, il y avait, Breton qui prenait des objets. Il y avait, alors, au prétexte de faire connaître ses productions artistiques, en fait, il les collectionnait, donc il ne les faisait pas connaître, si ce n'est de leur petit groupe élitiste, quoi. Et pour ce qui est de la littérature, non, là, il ne le faisait pas connaître. Il n'y a eu aucun recueil de textes bruts. C'est un tabou majeur qui... les écrits bruts... Parce que, bizarrement, depuis quelques années, l'art brut est en vogue. La peinture, la sculpture, les gens y vont comme si... pour voir des couleurs, de la vitalité, et pourquoi les écrits bruts sont restés si loin derrière cette mode? Je pense simplement parce que c'est plus violent d'entendre papa, maman, mon amour, abandonne-moi pas, que de voir un chameau à trois bosses. Et pourtant, derrière le chameau à trois bosses, il y a papa, maman. M'abandonne pas. Mais les écrits, il y a quelque chose de... Il y a la voix humaine, le manque, le désir, tout ça est à l'état pur, et c'est... Faut encaisser. Mais moi, je trouve que c'est pas violent. C'est juste la vie à l'état brut.
Est-ce qu'on peut entendre un premier extrait, Nicolas Repac, Anouk Grimbert?
Vous voulez une amoureuse ou un fils?
C'est difficile.
Nicolas, c'est toi qui décides.
Nicolas Repac et Anouk Grimbert sont donc prêts en studio pour nous offrir un extrait, une lecture. Et pourquoi moi je dois parler comme toi, c'est le nom du recueil de textes et du spectacle.
Bien cher fiancé, cher époux, dans l'attente et l'embellissement, je m'empresse pour venir t'écrire ces quelques lignes et venir m'entretenir quelques instants avec toi et correspondre avec enthousiasme et bonheur et prospérité, respect du plaisir au bien-être parfait. Maintenant que je serai bientôt avec toi pour nous faire du bien au trou cul, maintenant, puisqu'on est bientôt en famille et réunis pour le contact des deux époux, et pour se faire du bien et pour se contenter un petit peu, et pour faire tout ce qu'on doit faire pour s'aimer et se caresser, et tout faire pour se faire plaisir dans l'embellissement et l'enthousiasme et le respect du plaisir au bien-être parfait et pour le trou du cul du bonheur, de la prospérité. Maintenant que le printemps est bien là, viens me chercher au plus vide du moment qu'on est bientôt en famille avec trois petits-enfants auxquels je suis très intéressée par le plaisir d'une bonne maman, bien nippée en velours natier. C'est une des couleurs que je préfère pour le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Du moment que je souffre terriblement du trou du cul, envoie de la laine beige claire pour te faire des chaussettes. Cela va toujours de mieux en mieux chez moi. Cela va du mieux possible. Envoie des gâteaux aux pommes, aux cerises, au jus de cerise, au vin cuit, au pain de noix, aux oignons, à la courgette, à la crème salée, à la crème sucrée, à la rhubarbe, aux poires, des petits gâteaux à la vanille, aux raisins rouges, aux pistaches, aux cacahuètes, des papillotes aux fruits dans les papiers blancs et verts, des bourgeons de sapin, un kilo d'orange et un kilo de raisins blancs et rouges, un kilo de poire, des pommes de rainette, des bananes, des biscuits gris, des petits beurres, des gaufrettes, des bons beignets en chocolat, du beurre, du beurre. Envoyez-moi ma robe brune avec le col rose et le bout des manches roses. En attendant le plaisir de te revoir et de recevoir de tes nouvelles, reçois mes respectueuses et affectueuses salutations. Madame Marguerite de Moreau de Pianel.
Ça tourne pour nous.
Ouais. J'aime pas ma voix, je trouve ma voix juste. Elle n'est pas belle, ma voix. Les gens disent qu'elle est belle, elle est rien du tout. Elle n'est pas fausse.
Marguerite Duras.
Et la plupart des voix sont fausses. Surtout les voix de comédiens.
C'était un petit clin d'œil de Marguerite Duras, qui parle des voix et des voix de comédiens qui sont fausses. Emmanuel Lafont, dans Parlement, qui est le spectacle que vous avez créé avec l'Encyclopédie de la Parole il y a plus de 10 ans maintenant et que vous avez repris là récemment. Vous avez une voix de comédienne, mais qui est traversée par plein de voix différentes. Qu'est-ce qu'on comprend intimement de toutes ces voix-là quand on les traverse? Alors c'est plein de voix différentes, on le disait au début de l'émission, collecter un message sur un répondeur, un commentaire sportif, un extrait d'une sitcom, une...
voilà. Oui voilà, tout ça est composé.
Une plaidoirie.
Ouais, voilà. Il y a une grande hétérogénéité des sources, des genres, des contextes dans lesquels ces paroles ont été prononcées volontairement. Et puis donc Parlement en effet consiste en une voix, donc la mienne et donc mon corps qui reproduit pendant une heure en effet le geste est de restituer voilà une composition d'enregistrement comme ça qui est d'enregistrements qui ont été composés entre voilà et de passer de l'un à l'autre aussi tout se passe dans les transitions. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Déjà que parce qu'on est complètement si vous voulez façonné par saisi et attiré par le sens. On a envie de comprendre la parole, on parle c'est pour comprendre, c'est du sens qu'on s'envoie, c'est de l'information. Et donc avec ce travail-là, ce qui est passionnant, c'est de se rendre compte avec un peu de recul qu'en fait, le véhicule de ce sens. Ça peut être écrire, ça peut être dessiner, ça peut être la langue peut-être avec des mains de signes, les pieds, je ne sais pas. Là, c'est de la parole, donc ça fait du bruit. Et qu'il y a plein de manières de faire passer ce sens et cette information. Donc voilà, avoir l'oreille ouverte en effet sur toutes les manières différentes qu'on a de parler, et je parle dans une langue donnée, c'est là si on commence à s'intéresser aux langues étrangères, le spectre est encore plus large, mais finalement, la diversité qu'on trouve dans les langues étrangères, je la trouve à peu près dans la langue française, en fait. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça interroge, là, du coup, sur le pouvoir de ça. Il y a manière et manière de... Il y a vraiment manière et manière de s'exprimer, quoi. Oui. Bon, après, la tâche est complètement... C'est pas que c'est pharaonique, c'est que c'est carrément impossible. C'est un jeu. Enfin, moi, je ne peux pas... J'ai écouté beaucoup cette composition. Je m'amuse donc à faire un travail très... très naïf, très enfantin aussi, de mon point de vue. C'est de reproduire ce que j'entends. Je fais comme les enfants, exactement. Parce que depuis que je vis avec des enfants, j'en ai vu et tout, je vois, ils font tout ça. Ils font ça, on en a parlé déjà, vous m'aviez invité une fois pour parler de Blablabla aussi, qui est un spectacle de l'Encyclopédie de la Parole pour tout le monde à partir de 7 ans.
Que vous mettez en scène.
Oui, voilà, cette fois-ci que je mets en scène, j'ai eu envie d'être dehors justement pour... pour le plaisir déjà, et puis pour rendre compte de ce que ça pouvait être de donner ce genre de composition à partir de ce genre de matière première à un maximum de spectateurs, en effet. Et voilà.
Et dans les compositions de l'Encyclopédie de la Parole, dans Parlement,
oui,
et d'autres spectacles, il y a aussi cette idée de ne pas hiérarchiser la parole. Et justement, sur le même plan, il y a une poésie, une publicité, un commentaire, un message téléphonique.
Oui.
Et puis ensuite se crée presque une matière poétique au-delà de tout ça. Mais il n'y a pas d'hiérarchie a priori.
Oui, je dirais même que c'est un des principes de travail de l'Encyclopédie de la Parole. Avant d'être des spectacles, ce sont des collections sonores. Que certaines personnes donc se sont faites écouter, ce sont des rapprochements d'enregistrements de paroles qui n'auraient jamais dû en effet se rencontrer, et c'est donc une manière d'envisager, d'écouter des choses qu'on va récolter comme ça dans le réel, qu'on va cueillir dans le réel, mais de les écouter d'une autre manière. Voilà. Alors il s'agit pas, oui, alors bien sûr en tout cas, il y a 10 ans, une des remarques critiques était « Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de donner la même importance aux choses, d'aplanir tout ? Une publicité serait aussi importante que... il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce qui a plus de valeur, en effet, qu'autre chose. Il s'agit de faire jouer des rapports entre des choses qui sont constituées de la même matière, on va dire, et de voir comment... de s'intéresser à ce qui se ressemble dans concrètement dans je sais pas moi la manière dont a un grand psychanalyste Lacan de faire court en hurlant sur son auditoire et en faisant des pauses de 10 secondes entre chacune des phrases qu'il prononce, chacune des phrases étant des segments de pensée qui vous retournent, c'est-à-dire qu'il argumente des idées qui sont absolument, enfin qui sont là pour le coup qui sont passionnantes. Donc par exemple on entend cet extrait là et puis juste avant on entend un homme qui pareil hurle en laissant 10 secondes entre chacun de ses hurlements et profère des paroles plutôt insultantes à son chat qui est sur une poutre et qui ne veut pas descendre. Alors pourquoi faire une conférence comme ça devant une salle pleine de gens, pourquoi est-ce que vous parlez aussi fort? Alors on répond pas à ce pourquoi. On vous laisse dessiner, les paysages qui peuvent se former justement dans la composition et l'enchevêtrement de ces paroles qui sont mises bout à bout.
Et à l'intérieur de ces paroles, il y a parfois, sans être chaque fois du poème, mais il y a parfois des créations ou des choses étonnantes qu'on entend du coup.
À l'intérieur, vous voulez dire des extraits Et oui, peut-être parce que comme vous les avez extraits de leur contexte et que vous les regardez, que vous les mettez
des choses qui paraissent parfois très drôles ou très incongrues.
Et oui, ben oui, 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 mais en même temps, oui. En même temps, si vous prêtez l'oreille, il y en a des choses incongrues et drôles qui se passent quand on parle. Enfin, disons qu'on a un arsenal de ressources conscientes ou inconscientes, d'ailleurs, pour parler, pour s'exprimer, qui n'est pas forcément aussi linéaire et bien rangé que ça, quoi. Après, est-ce qu'on a envie de le regarder? Est-ce qu'on a envie de le... Est-ce qu'on ne veut pas le regarder parce qu'on se dit, bon, d'accord, ça va pas, ça tourne pas rond, c'est pas grave, ça va passer ou... Ou est-ce qu'on a envie de prêter attention à ça? Après, nous, notre boulot aussi, c'est je reviens après cette histoire du travail et de l'artiste. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est le point de vue qu'on porte là-dessus, quoi.
Là, dans Parlement, vous êtes toute seule.
Ouais.
Dans les suites, c'est plutôt une chorale, plusieurs voix qui s'empare de paroles, enfin en tout cas c'est à géométrie variable selon les spectacles,
c'est
cette
ça,
restitution
ouais.
de ouais. paroles brutes.
Ouais, ouais.
Mais à chaque fois c'est un montage de différents types de paroles.
De différents types de paroles, oui, puis c'est différents types de montage entre eux aussi. Oui, Parlement je suis seule, il y a Blablabla, c'est une seule interprète aussi, Jukebox c'est aussi une seule interprète. Et dans la suite numéro 1 par exemple, ils l'ont joué là, ils étaient, on était, je l'ai aussi créé le spectacle, une vingtaine sous la direction d'un seul. Donc c'est un petit peu l'inverse, il y a tout un jeu comme ça en effet, après dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire théâtre de cette restitution, de ce travail-là de restitution, c'est-à-dire de reproduire vocalement ce qu'on entend.
Et c'est quoi la réaction des enfants dans Blablabla que là vous mettez en scène?
Ouais.
C'est à partir de 7 ans.
Ouais.
Et là il y a tout un univers que eux connaissent potentiellement, en tout cas des choses qu'ils reconnaissent. Ou comment ils réagissent à ce montage de cette traversée?
Oui, qu'ils reconnaissent comme vous reconnaissez l'écriture. On en a beaucoup parlé avec Joris Lacoste, donc le compositeur, écrivain, compositeur. Je dis compositeur parce qu'il écrit à partir de sons, plus qu'avec un stylo. On a vachement fait attention à ce que ce soit lisible par tous. C'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas la référence précisément du dessin animé Peppa Pig que une certaine tranche d'âge va reconnaître, mais vous reconnaîtrez à peu près que c'est un dessin animé. La différence, c'est que les enfants, en fait, ils n'ont pas de second degré. Donc quand vous êtes seul sur la scène du théâtre, et c'est le décor de Blablabla, c'est aussi le décor de Parlement, qui a qu'un seul acteur qui vous parle, parce que c'est ça aussi, c'est que la parole, elle n'existe pas comme ça toute seule. On peut parler, ouais, on parle tout seul, mais on parle, on se parle à soi-même, on parle au mur, on parle toujours un peu à quelqu'un, quoi. Bon, généralement, on va dire qu'on parle à quelqu'un, et du coup, je mets ça vachement en jeu dans les spectacles. Si je parle, c'est parce que vous m'écoutez. C'est très moteur, quoi. Ça se passe ensemble. Et donc, les enfants, quand on joue ça, qu'il y a une personne qui leur parle, eh ben, ils ont envie de répondre. Ils n'ont pas du tout la distance qu'on acquiert à un moment donné, quoi, à partir du CP, de l'élémentaire, on commence à arriver, je sais pas, sans doute avec l'écriture, la lecture, justement, peut-être un peu une mise à distance, ça, du rapport au monde. Donc ils ont tendance à être en...
À s'exprimer.
Ben oui, parce que... Bon, en plus, les enfants, on leur dit, quand on parle, répond. Et puis là, on leur dit, écoutez, répondez pas trop, parce que sinon, on va plus rien entendre. Ils répondent avec la voix, mais ils répondent aussi avec le corps, quoi. Si elle fait semblant, si l'actrice fait semblant de donner un cours de boxe et nomme tel ou tel ou tel élève ou fait la maîtresse qui fait l'appel. Ben, Inès, ça se trouve, elle est dans la salle, donc tout le monde va se retrouver vers Inès, ou tout le monde va se retourner derrière, va littéralement se retourner sur son siège pour voir à qui on parle derrière. Vous voyez ? Alors ça, les adultes, on a plus trop ça, quoi. Bon. un petit peu encore.
Il y en a encore qui se retournent, les adultes, dans la salle.
Anouk Grimbert, on parle d'oralité, là. Pour vous, c'était une évidence de donner de l'oralité, de faire exister dans le souffle, dans la voix, ces écrits bruts, parce que ça aurait pu être un recueil, et voilà, un livre, mais vous avez eu envie de que ça soit entendu.
Même moi, avant de faire des livres, je suis quand même comédienne. Et quand j'ai commencé à découvrir cette littérature, au début, je ne l'ai pas découverte en tant que comédienne, je l'ai découverte en tant que personne. Et ça m'a si fort touchée que... vous savez, des fois, je suis une passeuse de Marivaux, des fois de Molière, des fois de Shakespeare. Et là, de littérature brute. Et puis, je savais aussi que... Enfin, j'avais l'intuition que si j'étais seule à le faire, les textes feraient plus peur. C'est aussi pour ça que je suis allée voir Nicolas, dont je connaissais la musique et je connaissais aussi le talent... d'accompagner des textes. Il n'est pas autiste avec les textes, il entend, il fait avec, il est vraiment musicien, mais il est pas que musicien.
Et ça veut dire quoi quand vous dites « je me sens vivante avec les bancals » ?
Ben, ça veut dire que je ne sais pas ce que j'ai, moi, mais quand je suis avec que des fortiches, que des gens qui se la pètent, que des gens qui savent parler, qui savent paraître, tout ça, je me sens mal. Et par contre, avec ceux qui ne savent pas forcément bien parler, ceux qui ne savent pas toujours paraître autre chose que ce qu'ils sont, bref, tous les maladroits, avec eux, je respire. Et alors... je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un accès à eux et d'avoir un accès à moi aussi. Il y a des gens qui... Les gens très bien adaptés au monde, ils ont le pouvoir de me jeter dans le noir. Par contre, les bizarres, les enfantins, les naïfs, même les idiots... Et des fois, les un peu borderline, ceux-là, ils me font me souvenir de qui je suis et aussi de ce que j'aime de la vie.
Et vous racontez aussi dans la préface, au tout début de ce recueil, comment ces hommes et ces femmes qui ont écrit vous ont mené vers votre mère.
Oui. Oui, je ne le savais pas quand j'ai commencé ce travail. En fait, moi, je suis née d'une femme qui, sans doute, n'aurait pas dû avoir d'enfant. Elle était davantage destinée à... Enfin, destinée. Elle était peintre. Et puis, elle avait été élevée dans un milieu bourgeois. Et... elle n'a pas eu assez confiance en elle et les gens autour d'elle lui ont fait aucunement confiance dans ce qu'elle avait de singulier. Et elle est devenue malade de la vie. Elle a passé des années à l'hôpital psychiatrique. Elle s'est très souvent suicidée. Et bon, tout ça, c'était une histoire dont j'avais très honte. J'avais très honte de venir... d'un endroit sombre. J'avais honte de porter moi-même du sombre du fait d'avoir hérité sans doute de quelque chose qui n'est pas... bref, j'avais honte. J'avais honte et j'inventais par exemple que ma mère était quelqu'un de très sévère et qu'elle allait me punir si je prêtais ma gomme. J'inventais qu'elle avait... qu'elle allait se faire des bigoudis. Enfin, j'inventais une femme qui n'existait pas, puisque celle qui existait, elle était à l'hôpital, ou quand elle n'était pas à l'hôpital, elle était enfermée dans le noir et elle supportait rien de la vie et certainement pas ni mes cris ni mes rires. Mais parfois, il faut des très longs détours pour regarder sa vie et la regarder avec amour. Et c'est bizarrement ces auteurs. Enfin, d'abord, ça a été l'art brut, la peinture, la sculpture et tout ça. Et après, ça a été ces auteurs qui, par leur voix si humaine, m'ont conduite vers cette femme. Peut-être qu'il fallait juste pas que je sois sa fille, mais la femme, elle était formidable.
Vous nous offrez un deuxième extrait, Anouk Grimbert, Nicolas Repac.
Mes chers parents, c'est le 22 avril. Vous venez pas me trouver souvent, mes chers parents. Quand vous voulez venir me chercher, il faut me répondre. J'ai salué bien tout le village. Vous faut venir me chercher dans les 2 jours. Vous faut me faire, c'est le plaisir. Je m'ennuie un peu à Marsens. Et j'ai pas mes femmes. Je peux pas dormir quand je veux. Vous m'avez promis de venir me chercher dans les 3 jours et Pierre Page, il m'a dit la dernière fois qu'il est venu me trouver, il m'a dit « Vous viendrez dans les 7 jours. Vous faut venir dans les 2 jours, comme j'ai dit. » Il m'a dit « Tu faut foutre dehors la folie du dedans de ta tête. » Je n'ai point. Comment va-t-il faire pour vous contenter ? C'est la dernière fois que j'ai fait attention à votre mauvaise raison, parce que je les connais toutes. Je me commande à vous, mes chers parents. Je vous abrase de tout mon cœur. J'ai une bonne complaisance. J'ai un bon esprit. J'ai une bonne idée. Sérieusement. Je suis franc. Je suis brave. Je suis tout au ciel. Et je les serai toujours pendant les hennités. Au revoir, mes chers parents. Je peux aussi trahir. Vous faut venir me chercher. Je vais aller dans mon village pour trouver mes chers amis parce que j'ai beaucoup d'amour. Je suis bien courtisée. J'aime bien les filles à l'âge de 60. J'ai beaucoup baisé de fois ma vie et j'en baiserai beaucoup de plus. Je sais bien traviler. Je vous abrancerai de tout mon cœur pendant l'éternité. Vous m'avez tenu pour un demi-fou. C'est pas comme ça. À la fin du compte, nous serons tous au ciel. C'était Jules Page.
On a commencé par aller au Pérou, on a voyagé à travers les voies, on a atterri à l'intérieur de la poésie. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation et à la technique ce soir. Merci à Cédric Chaplus et Jean-Benoît Tétu. On finira avec les mots de Tristan Tzara. Je pense à la chaleur que tisse la parole, autour de son noyau le rêve qu'on appelle nous. Bientôt il sera 21h, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de la fiction. Yes, yes.